Cause à effet, le magazine de l'environnement.
Jusqu'aux confins de l'univers connu, la Terre est seule à accueillir la vie. Il n'y a pas de planète de rechange. La Terre ne nous appartient pas. Elle est à partager. Là est notre espérance. La diversité des espèces est nécessaire à notre propre existence. Tout est encore possible. Depuis des millions d'années, la nature se renouvelle. Sauvage. Libre.
Sa voix se fait entendre au rythme de ses films engagés pour la planète et l'environnement. Ce qu'il produit, comme Le Peuple Migrateur, Tabarly ou encore Microcosmos, comme ceux qu'il réalise avec quelques fidèles complices, à l'image de Océan ou encore du film Les Saisons. Il se fait rare dans les médias, par timidité peut-être, par lassitude en esprit libre ou par l'envie tout simplement de laisser les images parler pour lui. Il a cette façon unique de nous mettre en immersion au cœur de la nature, dans les airs, sur terre ou sous les flots, mais toujours à hauteur d'animaux, quel que soit l'espace et le temps. Cet art de nous faire sentir leurs émotions, croiser leurs regards, partager leur vie et leur mort, comprendre le message qu'ils nous livrent à nous, les hommes, espèce la plus destructrice au monde. La voix est libre aujourd'hui avec vous, Jacques Perrin. Bonjour.
Bonjour.
Merci, ravi de votre présence ici en studio sur France Culture. Une heure d'émission pour comprendre avec vous et à travers votre parcours de vie, vos engagements, votre sensibilité environnementale et puis découvrir vos préoccupations pour le monde d'aujourd'hui et de demain, cette planète que nous partageons avec l'ensemble des espèces vivantes. Et puis dans les 20 dernières minutes de l'émission, un invité surprise viendra croiser la parole avec vous et peut-être nous livrer un peu plus de clés de compréhension du rôle qui est le vôtre. De cause à effet, c'est parti avec la belle équipe qui m'épaule, Anaï Morales et Alexandra Malka à la réalisation, à la technique aujourd'hui Jean-Guilain Mèche, sans oublier Anne Gouzon, Caroline Chausset, Vanessa Chang, les complices du jour, Patricia Linière et Stéphane Durand. De cause à effet, en partenariat avec le service Planète Science du Monde. Bonjour à tous et bienvenue.
Comment notre ferme gagne de l'argent?
Ça, c'est une très bonne question.
On élève des lions pour la conservation de l'espèce. C'est le seul but.
Oui.
Donc quelqu'un nous paye pour le faire?
Si seulement...
Ah, pousse pas. On va rentabiliser. Ce sera ça notre métier quand le lodge sera terminé. Gîte touristique, location pour équipe de tournage, recherche scientifique. Ça sera peut-être un peu juste, mais ça devrait suffire.
Et parfois, t'en vends aussi?
On vend des lions, en effet. Ah, des zoos, des parcs, aux autres éleveurs. Pourquoi tu demandes ça?
Je veux pas que tu vends, Charlie.
C'est pas une peluche, Mia. J'espère que t'en as conscience.
Il est pas non plus comme les autres lions. Il est différent.
Il l'est pas tant que ça. Pour l'instant, c'est encore un bébé et tu t'amuses avec, mais bientôt, tu penseras qu'à te tuer. Passe cette clôture. Et n'importe lequel de ces lions te taillera en pièces en 5 secondes. Peu importe que tu l'aies nourri, baigné ou bichonné, ça change rien pour lui que tu t'appelles Mia ou Kevin ou Obi-Wan Kenobi. Ça reste un animal sauvage. Quoi que tu fasses, tu changeras pas sa nature.
C'est un extrait du film Mia et le lion blanc, un film de Gilles Demesse que vous produisez, Jacques Perrin. La chasse aux trophées d'animaux sauvages en Afrique du Sud, notamment. Un scandale qui se passe sous nos yeux.
Oui, oui. Et quelque chose peu connu, même en Afrique du Sud, beaucoup d'habitants ne savent pas que véritablement, lorsque l'on voit ces grandes réserves avec ces beaux animaux, de temps en temps, il y en a qui disparaissent. Donc, sans doute, comme il est dit, là, dans le propos, ils vont se rejoindre d'autres sanctuaires, d'autres cirques, pourquoi pas. Et non, pas du tout. On les fait disparaître. Et donc, il y a véritablement des fermes, des sanctuaires, dans lesquels les animaux sont entretenus. Et le propos du film, c'est qu'il y a une petite fille, et donc avec son père, elle est persuadée que son père fait un métier tout à fait honorable, formidable, protection des espèces, et non pas des moindres, le lion. Donc, elle est admirative du travail que fait son papa. Puis, petit à petit, elle va découvrir une autre facette, et une facette qui est la réalité. Et la réalité, elle ne peut pas l'admettre. Donc elle va tout faire, elle va essayer, plus que de sauver ce lion, elle va y réussir, mais elle va faire en sorte de porter une cause. Et de porter une cause, je ne sais pas, pour les spectateurs qui verront le film, d'un seul coup, sa volonté devient une chose commune. Le spectateur dit, c'est pas possible. On ne peut pas entretenir, vous savez, il y avait à peu près 200 millions il y a 100 ans en Afrique. Et puis aujourd'hui, il y a un recensement, il y en a moins de 90%. Il n'y en a plus que 20 000 à peu près. Et donc, bien sûr, il y a les extinctions, la façon dont on n'a pas ménagé l'environnement, mais c'est pas seulement ça. On a trouvé une belle chasse, vous savez comment ça se passe, les chasses. Il y a une espèce de cage, on ouvre les portes, et il y a un chasseur, donc un Russe, un Américain.
Oui, généralement richissime.
Richissime, oui, bien sûr. Et qui chasse, qui a le droit de tirer, les portes sont à peine ouvertes, qu'il faut tirer. Et il y a des rangers qui sont pas loin, au cas si jamais il a la peur, la panique, il le flingue à sa place. Et après, non seulement ils l'ont tué, ils sont contents, et on imagine le rire, la fin, l'enthousiasme,
les
la joie.
Les photos devant le trophée.
Les photos devant le trophée. Et en plus, on coupe la tête du lion et ils le ramènent dans leur pays d'origine. Et donc c'est bien, quand on a un beau salon, il y a des beaux tableaux, puis il y a aussi la tête du lion. Donc ce sont des personnes admirables qui font ça.
Le dernier rapport du WWF de cette année dénonce la disparition de 60% des animaux sauvages sur les 40 dernières années.
Oui, oui,
l'état
oui.
d'urgence dont on parle, il est là.
Il est là. Ah ben, et à un certain moment, c'était de sinistres prophéties. Mais on disait, ah, c'est demain, on verra. De toute façon, l'homme est raisonnable. Les sociétés ne vont pas laisser faire. Et puis, on arrive dans des temps d'urgence. On arrive à la fin d'une échéance. C'est que cette diversité qui fait que l'homme est au milieu de cette diversité, c'est formidable, on peut en jouir. Mais attendez, il y a une échéance. Et cette échéance, elle est prochaine. Donc maintenant, on parle plus du siècle prochain, non plus d'une autre époque. On parle dans 10 ans, dans 20 ans. On pense que le lion sauvage n'existera plus. Et qu'il n'y aura plus que des petites réserves. Donc c'est comme dans les musées, mais au lieu d'avoir des animaux empaillés, ce seront des animaux vivants. Mais leur univers, leurs horizons, ce sera la cage, ce sera voilà le grillage. Et donc, ce qui est tragique, c'est qu'on le sait. Et le public est sensible, on peut faire des films, on peut faire des œuvres, du journalisme, et montrer qu'il y a des échéances terrifiantes. Mais il n'y a pas que nous qui le voyons, citoyens du monde. Il y a aussi les politiques. Les politiques, ils voient tout ça, et ils font des raisonnements, ils engagent des propos, ils engagent même un ministère de l'Environnement, et quand on voit le pouvoir d'un ministère d'Environnement, on peut se poser des questions. Donc il y a tout ça, mais il y a une inertie qui s'est faite. Et je pense que le politique, à un certain moment, il se satisfait sur les orientations qu'il promet de donner, qui ne sont pas réalisées en fait. C'est terrifiant. Est-ce qu'il y a une relation complète entre nos représentants et le citoyen de France, de la planète? Je crois pas. Donc, comme
entre
on sait, il y a des tas de raisons, des tas de manifestations qui se parlent et qui montrent qu'à un certain moment, la société civile n'accepte plus. L'individu multiplié par plusieurs, par 100 par 1000 n'acceptent plus. Et là, syndicats politiques peuvent faire ce qu'ils veulent. Ils sont à la traîne. Donc, c'est tragique. Mais dans le même temps, c'est réconfortant. C'est que l'individu a donc une opinion et une valeur. Et on peut l'entendre. Il se fait entendre. Donc, rien n'est foutu. On a raison de croire encore.
Vous êtes donc acteur, réalisateur, producteur, conteur, fort d'une sensibilité au vivant. Qui vous vient d'où?
J'avais mon parrain qui était paysan dans l'Isère et j'ai vu ce que c'était le petit lopin de terre, la petite ferme. Et la relation qu'il y avait avec les animaux domestiques, c'était une joie. Et puis le travail de la terre, où quand vous avez un rendement et que c'est vous qui en profitez, il y a une véritable cohérence là maintenant. Bon, bien sûr, il y a des grandes sociétés industrielle de l'agriculture. Où est le paysan? Le paysan est mort, mais l'agriculteur a pris sa place, et c'est pas l'agriculteur, c'est le représentant des grandes industries. C'est avec beaucoup de tristesse que je suis retourné, et maintenant j'ai un grand âge, j'y suis retourné, et ça a disparu. Et puis, j'ai eu avec un ami de Collioure, j'ai eu un bateau de pêche, un chalutier, et avec ce chalutier, on allait pêcher la sardine en Méditerranée, le maquereau, l'anchois, et on ramenait des pêches formidables, de 5 tonnes, de 10 tonnes, rendez compte ce que c'est. Et c'était pour l'équipage qui était important sur le chalutier. Il y avait à peu près 8 personnes d'équipage. Et là, j'ai écouté les récits des pêcheurs qui déjà prévoyaient que finalement, ils étaient en sursis. Ils avaient très très peur. Ils pensaient que peut-être les nouvelles générations, ils auraient des temps difficiles. Et effectivement, c'est arrivé. Et quand on pense qu'à Collioure, il y avait sur la grève de la plage Saint-Elme, je crois, il y avait à peu près une quinzaine de barques de catalanes. Et avec ces quinzaines de barques, vous avez les chalutiers qui ramassaient le poisson, ils partaient en pleine mer la nuit. C'est fini. Je regarde, non pas accablé, mais quand même. J'ai vu la paysannerie, les paysans qui est mort. J'ai vu les petits patrons pêcheurs qui ne sont plus. Maintenant, il y a des pêcheurs sur les grands bateaux industriels de la pêche. Ce sont pas des pêcheurs, ce sont des manœuvres. Ils n'ont pas de contact avec la mer, c'est bien trop, leur rambarde et tout ça. Donc il n'y a plus de contact. Alors, il faut vivre avec son temps, je le sais. Mais c'est avec un mal au cœur. Puisque t'es joli dans ces plages de Collioure aussi. Il y avait un échange avec les familles des pêcheurs. C'était non seulement les pêcheurs qui partaient en mer, mais les femmes de pêcheurs. Elles reprisaient les filets toute la journée. Donc vous arriviez au petit matin sur la plage, vous rangiez la chaloupe, la catalane, et à l'ombre de la catalane, vous avez les femmes qui rapiéçaient les filets. Et vous, vous étiez sur un l'ombre aussi, dans l'autre côté de la chaloupe. Et là, vous aviez vos petits grillages, vous aviez nos sardines, et puis un petit peu vin de Collioure. Et c'était des temps, je ne vais pas dire un regret, parce que même de l'évoquer, ça me rend plein de joie.
C'était en quelle année ça?
1960, 1961, 1962.
Et donc avec Petit Louis notamment, hein,
oui.
Je crois. C'était rencontré lors du tournage du film « Et Satan conduit le bal », c'est ça ?
Mais oui, ouais. Mais oui.
Alors je vous propose, puisque vous parliez de ces gens qui racontaient encore à l'époque et de cette bascule, eh bien à peu près 15 ans après cette rencontre qui a été la vôtre avec les pêcheurs de Collioure, voici ce qu'ils disaient ces pêcheurs de Collioure sur France 3 région Toulouse. Reportage tourné là-bas le 20 septembre 1976 pour l'émission « Façon de vivre ».
Avant Collioure, c'est un peu difficile à expliquer, mais... On était plus heureux que maintenant, hein, finalement, parce que il y avait 80 bateaux à l'époque, on pêchait, le poisson se vendait, et alors que maintenant c'est foutu. Avant, à Collioure, il y avait davantage d'activités, il y avait des ravaudeuses, 200 ou 300 ravaudeuses, là, il y avait le poisson, quand on ramenait à terre, on le vendait à l'enchère, tu te rappelles à l'époque.
Hein. Oui, on a vu le poisson à juste 3 ans après la libération, nous l'avons eu à 3 francs du kilo. Et alors, il y avait une activité qui était énorme. Il y avait au moins 300 marins pêcheurs. Et puis l'arrivée, c'était plus la même pêche que l'Amparo. On allait au Sardinal. On arrivait à 10h du soir, tout le monde, les filets chargés de sardines. Ça donnait une activité qui était magnifique. Ah, parce oui. Qu'on devait le démêler. On le mettait dans des grands couffins, alors de 50 kilos. Et on apportait ça à la coopérative. On faisait une moyenne de... Quand c'était la bonne pêche, c'était 800, une tonne. Mais la pêche normale, régulière, c'était 500, 300, 400 kilos de sardines. Et alors, il n'y avait pas... C'était plus naturel, il n'y avait pas ces lampes, il n'y avait pas de... Le poisson venait à terre, il était libre, il s'emmalait par sa propre volonté.
Ah oui, ces témoignages, ça vous fait partir dans ce passé, Jacques Perrin. Mais il faut quand même préciser que vous étiez un enfant parisien. Donc, vous parliez de votre parrain et ce contact avec la terre, de Petit Louis avec Collioure. Mais quand on sait que vous avez été donc enfant né à Paris, d'un père régisseur à la Comédie Française, d'une mère comédienne, vous viviez dans une famille modeste, hein, mais avec de la poésie, de l'émotion et de l'humanisme. Ça, il faut quand même le préciser. Mais on se dit... Dans cette vie-là, qui vous a raconté la forêt, les animaux ?
Vous savez, vous avez dit ma mère, j'ai vécu beaucoup avec ma mère, mon père assez peu, il n'y avait pas de radio, hein, et donc les repas de famille, c'était sacré. Effectivement, on n'avait pas d'argent, mais quand je dis pas d'argent, je ne dis pas avec tristesse, parce qu'on n'avait pas d'eau courante, parce qu'il n'y avait pas de vitres sur les fenêtres, on se débrouillait, et avec très très peu d'argent. Mais je crois que... De ma vie, les années vraiment les plus belles, c'est cette période. Parce que un petit rien nous entraînait vers un grand sourire. Et il y avait une communion dans une famille. Et il n'y avait pas d'envie, les magasins, on n'y allait jamais. Donc on n'était pas à lécher les vitrines et à espérer autre chose que ce que l'on avait. Et donc, peut-être que de temps en temps, dans ses vacances, donc dans l'Isère, peut-être que les forêts, quand j'étais très jeune, on avait vécu à Vincennes, et donc le vent, le frémissement des feuilles, les forêts, tout ça, ça m'inspirait. Et puis aussi, maman disait des poèmes. Donc elle disait du Carco, du Prévert, de nombre. Et bien souvent, la poésie raconte tout aussi bien ce qu'est la nature, la vraie poésie. Avec, c'est pour ça que j'aime bien le cinéma sans commentaire. Il y a une seule image, vous emmène tout de suite dans un milieu dans lequel vous vous sentez bien. Un livre, vous avez besoin de tous les chapitres pour arriver à percevoir quel est le sens, le message. Avec un poème, vous embrassez le monde entier en quelques strophes. Et ça, c'est formidable. Et ma mère avait cette intelligence, elle avait cette affection comme ça pour la littérature. Et je crois qu'avec mes deux sœurs, on a été bercés par ce rapport à la nature qui n'était que raconté à travers la poésie.
Et puis il y aura aussi, au fil de votre parcours, Jacques Perrin, des rencontres, une filmographie qui fait de vous aujourd'hui un défenseur. Je ne sais pas si c'est le mot juste d'ailleurs. Comment est-ce que vous définissez vous-même le rôle qui est le vôtre aujourd'hui ?
Je suis un citoyen, mais j'ai des armes qui sont avec moi, soit une expression, soit des armes. Et le cinéma est une arme. Le cinéma arrive à vous faire comprendre, arrive, et encore je précise, sans commentaire. Et d'un seul coup, il y a une agression. On peut pas rester insensible aux crimes qui sont commis autour de nous. Mais quand vous voyez les forêts, quand vous voyez l'eau, que parlait Tilloui, quelle émotion de l'entendre, mais quand vous pensez que sur le long du littoral, il n'y a plus de sardines, il n'y a plus de maquereaux, il n'y a plus d'anchois. Quand vous pensez que la plupart des côtes en Espagne sont bétonnées, quand vous pensez que Lamia et Semlali que vous avez reçus mènent des campagnes en allant en bateau le long des côtes de l'Atlantique...
Dans le cadre de Sea Shepherd, l'association de Paul Watson.
Pour essayer de sensibiliser les riverains que la chasse aux baleines, aux petites baleines, aux requins, et la chasse aux dauphins, ça se pratique, il n'y a pas besoin d'aller très loin. Et c'est terrifiant dans les filets qui sont faits normalement pour ramasser une espèce de poisson. Mais ils ne font pas le tri, les filets, ils ramassent tout. Et on s'aperçoit qu'en ramassant tout, c'est tous les trésors de la biodiversité qui s'en vont.
Ce rôle de passeur quand même que vous remplissez aujourd'hui, passeur. Entre le savoir aussi et l'expérience de spécialiste, parce que vous entourez toujours de spécialistes, de chercheurs, de scientifiques qui travaillent avec vous, et du coup, vous nous faites même découvrir à nous des métiers insolites, comme les imprégnateurs par exemple.
Tout à fait. Vous savez, je n'ai pas de diplôme, mais université, c'est vraiment la vie, c'est pas autre chose. Et mon talent, si j'en ai un comme producteur et réalisateur, c'est de réunir le talent des autres. Ça, oui. Comment je ferais, moi, quand je fais un film sur l'océan, je vais pas à 50 mètres sous l'eau. Quand on vole avec les oiseaux, je m'envole pas à 2000 mètres pour regarder, tiens, je vais faire un plan sur la tête du canard parce qu'il est vraiment très beau. Non, mais je m'entoure de gens qui savent. Et les gens qui savent, ce ne sont pas que des techniciens. Ce sont des gens qui ont une sensibilité exacerbée, formidable, mais qui n'a jamais été mis en valeur. Moi, je pense que les films que l'on a fait sur la nature, on est au moins une quinzaine de réalisateurs, même si avec Jacques Clouzot et puis François Sarano, on les met ensemble. Donc c'est avec eux, parce que moi je ne sais pas, j'écoute. Et en fonction de ce que j'écoute, c'est comme une musique. Et de cette musique, j'ai envie de la retrouver en image. Donc j'envoie, je sensibilise avec Jacques Clouzot, avec Stéphane Durand. On dit ce que l'on souhaite à nos techniciens, mais c'est rien d'autre qu'une définition qui n'en est pas une. Parce qu'on leur dit, vous allez vous trouver, et je vous en supplie, laissez-vous aller à votre émotion. Et si vous rencontrez l'émotion, vous la filmez, et je suis persuadé que ce sera émouvant aussi pour le spectateur. Mais ne cherchez pas, sans être ému, à avoir la perception d'une émotion.
Et vous inventez des films à hauteur des animaux. Oui. On plonge dans un de vos premiers beaux succès. Écoutez ces propos de Claude Nourrizzani et Marie Perrenou. C'était dans l'émission La Marche des Sciences du 19 mai 2016. C'était à l'occasion des 20 ans de Microcosmos.
C'était effectivement un souvenir extraordinaire. Je me souviens de la projection dans la grande salle et de voir des fourmis de 30 mètres de large comme ça sur l'écran. Il y avait une projection qui était absolument sublime, de qualité. Mmh. Et c'est vrai qu'il y avait eu un travail sur l'image et sur le son qui nous avait demandé beaucoup d'efforts, à toute l'équipe et à nous-mêmes. Et là, l'ensemble des sons et de l'image faisait qu'on était dans un grand spectacle. Et c'était un peu notre rêve qui devenait réalité, parce que on s'était fait un petit peu le pari de transformer le microscopique, le minuscule, le négligeable en grand spectacle. Et là, c'est vrai que dans la salle du Festival de Cannes, il s'est passé une sorte de magie. Le public, on disait, mais personne n'ira voir ce film, qui s'intéresse aux insectes? Enfin, on a toujours un petit peu peur de s'être trompé. Et puis nous, on avait fait que suivre notre passion. Mais comment savoir si cette passion est transmissible? Et à Cannes, il y a eu ce frisson dans l'auditoire qui nous a un peu rassurés. Oui.
Le César est attribué à Marie-Joseph Yoyotte et Florence Ricard pour Microcosmos.
Le César est attribué à Bruno Coulet.
Voilà, pour Microcosmos, la musique de ce film.
Le César est attribué à Laurent Caglio, Philippe Barbeau et Bernard Leroux pour Microcosmos. Le César est attribué à Claude Miris-Dani, Marie Perrenou, Hugues Griffel, Thierry Machado pour Microcosmos.
France Culture, de cause à effet, le magazine de l'environnement. Aurélie Luneau.
Carton plein, Jacques Perrin, sur ce film Microcosmos. Alors on pense aussi, hein, il y avait eu Le Peuple des Singes, il y aura Le Peuple Migrateur, Les Saisons et bien d'autres. Vous avez aussi, est-ce qu'on peut le dire ainsi, inventé un art cinématographique très particulier pour faire en sorte que ce soit les animaux qui vous guident presque dans la façon de les saisir. On a le sentiment que c'est eux les maîtres d'œuvre et que vous les suivez, quitte à inventer même des machines insolites.
Mais oui, c'est très juste à hauteur des animaux. Mais le souci permanent que nous avons avec Jacques Luzeau, avec Stéphane Durand, c'est d'être toujours à proximité du mouvement. Quand on voit dans un musée, quand on voit un livre, on voit des photos. Mais c'est rien, c'est pas la vie la photo. Donc, quand il y a des animaux empaillés, c'est pas la vie. Donc, comment faire? Comment aller au plus près? Et au plus près, c'est-à-dire que quand vous êtes à 2000, 3000 mètres d'altitude, vous êtes à 50 mètres, comment être? Et donc, de savoir que ça n'a pas été fait, que c'est impossible, bah, c'est une gageure qui vous remplit d'enthousiasme. Quand on parle avec les oiseaux à 2000 mètres, je me souviens d'une chose, quand on voulait Caglio, dont j'ai entendu, là, le nom, réévoquer le nom, c'est le son. Le son, il y a la proximité de l'image, mais le son. Qu'est-ce que c'est que le son? Et la musique, bien sûr, Bruno Coulet. Alors qu'est-ce que c'est? C'est de faire en sorte que on avait mis un petit micro sur un oiseau, un petit micro de façon à écouter, faire un enregistrement qui serait pas bon, mais pour savoir quel est l'effort qu'ils ont fait, quel est le plumage, la façon dont le vent se répartit dans le plumage. Et on l'a écouté. Et là, on a écouté, on a été complètement surpris. Et Bruno Coulet, ô combien, il a fait sa musique en fonction de ça. C'est que les oiseaux, ils se fatiguent quand on dit qu'ils vont faire des migrations, mais ils sont crevés quand ils arrivent dans une étape. Ils sont crevés, et qu'est-ce qu'ils font? Ils respirent, ils n'ont plus le souffle. Vous vous rendez compte de faire 2000 kilomètres en volant toute la journée, quand on voit que les oiseaux qui partent du pôle Nord jusqu'au pôle Sud, en 2-3 étapes, mais c'est hallucinant. Il n'y a pas un sportif, un marathonien, un homme qui est capable de faire le tiers, le 10% tout simplement de ce que font les animaux.
Donc au fond, pour vous, Jacques Perrin, c'est pas notre regard à nous sur le monde qui compte, c'est le regard de ces animaux et ce qu'ils nous apportent.
Oui, bien sûr. Les oiseaux, ils nous apportent quoi? De passer par-dessus les frontières, de pas avoir une barrière linguistique, de pas de frontières politiques. Non, il y a que les montagnes. Quand on fait un peu d'endurance et quand on s'y prépare, on franchit les montagnes. Les oiseaux au-dessus de l'Annapurna, au-dessus d'Everest, ils franchissent, décollent à 4000 mètres, à 5000 mètres. Il fait là-haut combien? Il fait moins 20, moins 30, ils le font. Et puis quand ils arrivent à l'étape, ils ont franchi les cimes, ben ils se reposent parce que, mais nous, on se reposerait pas. Nous, on meurt, nous, on peut plus. Et puis on serait découragé. Donc, l'exemple du courage, d'affronter l'adversité, c'est une philosophie que nous donnent, que nous enseignent les animaux.
Des tournages hors normes pour des films d'envergure, avec des moyens techniques souvent inédits, imaginez. Hein, je disais que vous étiez aussi inventeur, perfectionniste, avec toute l'équipe, hein, bien sûr, exigeant, engagé, mais discret et ambitieux. Enfin, c'est une alchimie hein, aussi qui fait ce que vous êtes, Jacques Perrin, et puis aussi ses équipes, bien sûr. Inventeur, vous n'avez pas hésité à faire en sorte qu'une torpille avec une caméra puisse... nous révéler des choses pour Océan, un ULM pour le peuple migrateur, pour les saisons, un scooter avec des amortisseurs et quatre roues indépendantes pour rouler, mais à la vitesse des loups dans la forêt, et puis de tous ces animaux-là, mais vraiment être au plus près de ce qu'ils vivent eux, et donc se détacher de notre regard à nous. Chacun de ces films a changé quelque chose en vous, Jacques Perrin.
Oui, j'ai pas envie de quitter cet univers, j'ai pas envie de quitter cette école de la vie et de la vie d'autres, des êtres vivants. Donc j'ai envie de continuer. Ça m'a appris en tout cas que faut pas se complaire. Moi, j'aimerais vous dire une petite phrase de Walt Whitman qui dit « Je pense que je pourrais vivre parmi les animaux tant ils sont paisibles et réservés. Je les observe depuis longtemps et je ne les vois pas gémir sur leurs conditions de rester éveillés la nuit, pleurant sur leurs péchés. Ils ne m'écœurent pas à discuter de leurs devoirs envers Dieu. Aucun n'est insatisfait, aucun n'est obsédé par la rage de posséder les choses, aucun ne s'agenouille devant un autre, aucun sur toute la terre ne se veut respectable ni pitoyable. » C'est admirable. Il faut qu'on ait cette communauté d'esprit, cette communauté de sensibilité. Et là, on peut travailler ensemble. Pourquoi fait-on tous le même film? Pourquoi? C'est qu'à un moment, il y a un discours qui est fait, mais il y a une entente. Quand on prépare une scène donnée, on dit, vous verrez la couleur, faites en sorte qu'elle soit harmonieuse, mais approchez-vous de quelque chose qui est significatif, quelque chose qui parle. Et encore une fois, vous n'aurez pas de commentaires. Hein.
Oui, donc, très peu de commentaires. Parfois, sur une heure et demie de film, allez, 6 minutes à peine.
Voilà, c'est ça.
Hein, Océan, le peuple migrateur, les saisons. Mais... Et vous évincez même les hommes.
Ah bah oui. Parce que, vous savez, il me semble que dans le cinéma traditionnel, quand il y a des hommes et des animaux, bah, la toile de fond, ce sont les animaux. Et donc, ce que je souhaite, c'est que ce soit eux qui soient en premier plan. Et en premier plan, non seulement ça, en seul plan. Et puis, il y a tout de suite, avec un être humain, on le définit plus ou moins. On arrive à comprendre. On voit même comment il va percevoir son milieu, son environnement. Avec les animaux, on ne sait pas. On ne sait pas comment ils regardent. Et on sait très bien que un animal a besoin d'un environnement particulier. Un animal ne vit pas n'importe où. Il y a une correspondance. Donc, c'est essayer de comprendre quel est la façon de vivre d'un animal sans être perturbé par ce qui peut gêner la compréhension, c'est-à-dire l'homme.
Et restituer leur langage, parce que ça, oui. Les images le font. Et comme vous disiez, peu de commentaires dans vos films, mais la présence de la musique qui parle à la place du commentaire, c'est le sentiment en tout cas qu'on éprouve en regardant vos films, Jacques Perrin, et bien sûr on pense à la musique de Bruno Coulet et à d'autres qui ont collaboré avec vous. Cette musique-là, vous avez choisi de nous la faire partager aussi avec un choix musical particulier. Vous avez choisi la chanson « Johnny ». Oui. De Graham Wright. Est-ce qu'il y a une raison particulière?
C'est la raison des années 50, 60. Donc Graham Wright a un plus grand âge que le moi. Il doit avoir 90 ans passé.
Vous êtes né en?
Oh, il n'y a pas longtemps, je suis né en 41.
Ah ben oui, il n'y a pas longtemps.
Oui, il n'y a pas tellement longtemps. Et donc ça m'a bercé, et puis on était aussi, il a chanté beaucoup, et je trouve qu'il a disparu, c'est vraiment dommage, on n'en écoute pas assez, les quelques fois il passe à Paris, je me précipite, mais en plus, il a fait une chanson qui s'appelait Johnny, et ce qui me semble bien, Johnny, c'est un militaire américain qui va au Vietnam. On sait que les manifestants, les étudiants de 68, c'est eux qui, avec les Vietnamiens, ont gagné la guerre. Donc l'opinion, la société civile, c'est important. Et il a chanté cette agonie, cette joie de vivre et en même temps cette agonie. Et je trouve que le parcours de quelques-uns qui peuvent soulever l'enthousiasme et la mobilisation d'un plus grand nombre, c'est un exemple. Je dis pas qu'il faut croire aux leaders parce que le fascisme n'est pas loin. Non, mais on peut se rallier à des nobles causes et ces nobles causes sont incarnées par quelques-uns. Et dans la chanson Johnny, puis il a beaucoup chanté Leonard Cohen. Et donc c'est Emmène-moi, petite bouteille. C'est des chansons qui soient régissantes. Et le Johnny, je croyais que c'était une adaptation de Cohen, mais pas du tout. Elle est de lui. Elle est magnifique. C'est une poésie sur un drame humanitaire qui a traversé toute la génération des Américains. Il y a quelques matins, ce sont des anciens. Mais c'est tragique. Enfin, ils se sont élevés contre la guerre du Vietnam. On peut garder espoir, c'est que vraiment on peut reprocher des choses de temps en temps aux politiques, de ne pas savoir entendre et puis de ne pas prendre la bonne direction. Mais se dire, allez, si on est un, deux, quelques-uns, on peut faire quelque chose.
Tu es parti là-bas, sans savoir pourquoi. Je ne crois pas que tu cherchais la gloire. Tu avais peut-être seulement du mal à jouer le jeu dans ta petite ville sans histoire. On t'a dit que là-bas la cause était juste, qu'il fallait vaincre à tout prix. Puis c'est facile de laisser les autres penser pour soi, alors sans savoir pourquoi tu es parti. Mais c'est bientôt fini, Johnny. Vois-tu encore le soleil? C'est bientôt fini, Johnny. Sens-tu venir le sommeil? Toi qui lisais les bandes dessinées et te voyais en surhomme vainqueur, là-bas dans l'enfer des forêts vertes, tu as appris à connaître la peur. Tu as appris à manier des armes nouvelles, à brûler des femmes et des enfants. Tu n'aimais pas ça, mais on n'a pas le choix, et la peur est un maître exigeant. Mais c'est bientôt fini, Johnny. Vois-tu encore le soleil? C'est bientôt fini, Johnny. Sens-tu venir le sommeil?
De cause à effet, c'est la suite de notre émission sur France Culture consacrée aujourd'hui à Jacques Perrin, acteur, réalisateur, producteur qui nous ouvre son univers, celui d'un passeur et d'un défenseur de la nature et de l'environnement au sens large.
Apprenti sorcier, l'homme est devenu une force géologique. Il modifie la nature et les saisons. Que reste-t-il de l'âge d'or de la forêt ? Il y a 10 000 ans, s'étendait ici une forêt peuplée d'animaux sauvages. Si nous sommes capables de construire des villes éternelles, nous devons être capables de préserver la part sauvage de notre monde. Quel regard portons-nous sur nos compagnons de planète? Ceux dont nous devrions partager le territoire. Menacés, attaqués de toutes parts, la nature n'a pas encore abdiqué. Il n'est pas trop tard. Elle résiste.
C'était un extrait de votre film Les Saisons, Jacques Perrin, réalisé avec Jacques Luzot. Vous êtes en général un optimiste fervent. Est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la déforestation, les espaces sauvages réduits, les terres empoisonnées par les intrants chimiques, les oiseaux qui disparaissent, ça a été une grande actualité aussi ces derniers temps, plus de martinets en été, plus de platanes, le fait que l'homme dégrade plus vite qu'il ne reconstruit ou restaure, vous êtes toujours optimiste ou le défaitisme parfois vous envahit?
Mais c'est dans les moments de... où on est accablé par ce qui se passe. C'est là où il faut avoir à nourrir le plus d'espérance. Parce que si on était tous accablés, je veux dire, oui, il faut faire des prières et puis aller tout doucement ensemble au cimetière. Mais c'est pas ça. Et en plus, je crois qu'il y a des individus, je crois qu'il y a des associations, je crois que c'est pas simplement dans nos provinces, que c'est pas simplement en Europe, mais de partout dans le monde. Il y a des voix qui n'acceptent plus, il y a des voix qui s'élèvent. Donc on peut être ensemble, et si on s'élève, c'est pour le bien commun, c'est parce qu'on y croit encore. Et malgré tout aujourd'hui, Enfin, quand je vois des concerts de musique, quand je vois la façon dont les jeunes se rassemblent, il y a une espérance vivante. Donc, moi, j'ai la chance de faire des films avec ceux que j'aime, que j'apprécie. Et donc, on va au-devant de ces animaux, de cette diversité, mais au-devant de gens qui... Ah, mais vous faites bien de faire ce film, parce qu'on va vous accompagner et on va vous faire voir des choses. Et nous, on connaît peut-être 70% de ce que l'on va faire. Mais il y a 30%, on ne sait pas très bien. On se trouve devant des animaux, des façons de vivre, devant des croyances, des adhésions à ce qui est de ce qui nous sauve, encore une fois, l'espérance. Donc, oui, je nourris toujours un bel espoir.
Et alors, quand vous n'êtes pas à Paris, quels sont vos lieux de prédilection sur Terre où vous partez peut-être même pour vous ressourcer ?
Je me ressource quand je pars pour mes films. J'ai une maison, encore quelques temps, on va voir, en Normandie. J'aime le maraîcher, j'aime le potager, j'aime aller chercher toutes ces herbes, et puis, mais ça dure pas très longtemps, mais quand même, on peut dire que je me ressource et c'est un vrai bonheur. J'ai trois fils, dont deux me rejoignent assez souvent, pas assez à mon goût, je les retrouve dans cette Normandie. J'ai été adopté par Collioure, par donc le Languedoc, mais c'est trop loin, et j'ai un autre pays que j'adore, et j'ai un autre ami qui s'appelle Luciano Tovoli, qui est un grand opérateur, qui a fait les films de Scola, qui a fait parmi les grands metteurs en scène, et je vais en Toscane avec lui. Et donc la Toscane, c'est un pays merveilleux. Les couleurs des maisons, la couleur des villages, c'est comme un miroir, elle reflète la couleur de la nature.
Jacques Perrin, il est temps de faire entrer notre invité surprise, mais auparavant, je vous propose d'écouter sa voix. C'était le 3 novembre 2000 dans l'émission Côté Mer sur France Bleu Brésil.
Vous savez, quand vous êtes face à la mer, dans des conditions extrêmes, vous y avez pensé avant et vous ne partez pas comme ça au petit bonheur la chance, c'est pas vrai. La mer ne pardonne pas ça. On laisse toujours quelqu'un derrière soi. Vous savez, je pars du principe que nous nous accompagnons, mais chacun de nous a sa vie propre à mener. Eux, c'est leur passion, c'est... Et quand nous, les compagnes, nous acceptons jusqu'au bout. Alors ils ne nous laissent pas derrière, ils nous emportent aussi avec eux. Et notre seule liberté, c'est justement de les aider à partir. C'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut leur donner. Ils ne sont pas égoïstes, ils ne sont pas vaniteux, ils sont eux.
Qu'est-ce qui vous motive, qu'est-ce qui vous passionne ?
Les autres.
Vous l'avez reconnu,
ma chère Jacqueline.
Jacqueline Tabarly qui nous rejoint. Oh, entrez, je vous en prie, prenez place.
Oh, quelle belle surprise. Oh mon Dieu. C'était très beau les mots que tu as prononcés, là. Les autres.
Il faut quand même maintenant mettre les auditeurs dans la confidence. Jacqueline Tabarly et Jacques Perrin se connaissent depuis l'enfance.
Oui.
Vous étiez copain d'enfance, Jacqueline Tabarly ?
Je viens d'entendre tout à l'heure que tu étais de 1941. Janvier ?
Juillet.
Moi, je suis de janvier 43.
Oh là là.
Alors, t'es pas si vieux que ça. Ou alors, moi aussi, je suis vieille.
Jacqueline Tabarly, donc, ce copain d'enfance, vous l'avez connu
non,
comment ?
Copain d'adolescence. Je devais avoir 14 ans, 15 ans, oui, quand je suis arrivée en France. Oui, 14 ans et demi, oui, oui. Et toi, tu habitais deux numéros à côté de chez moi, mais c'était pas des HLM, c'était des immeubles qui étaient ce qu'ils étaient.
Oui,
c'était
oui.
Pas des HLM.
Si, c'était considéré c'était comme HLM.
Oui.
Parce que ça, la vie dans un HLM, c'était accompagné des allocations familiales.
Ah, d'accord.
Et donc, je recevais, maman recevait les allocations familiales, j'imagine que chez toi, ça devait être la même chose.
Il y avait quand même quelque chose d'agréable, c'était la Seine. Agnières.
Ah ben, à côté d'Agnières, c'était la Seine. Mais on était assez loin quand même de la Seine.
Non, Doudou, il y avait la rue qui nous séparait.
Ah ouais. Ah ben, tu vois, j'ai mal regardé.
Toujours précis.
Mais en tout cas, Jacqueline allait à l'école.
Oui.
Et puis, je la suivais de temps en temps.
Tu ne te rappelles pas comment on s'est rencontrés ? Moi, je le voyais, il était vraiment beau garçon. Mais bon, bah, j'étais forcément très timide. Et puis, je pense qu'il était un petit peu timide aussi. Et puis un jour, je revenais de prendre le train, je revenais de Saint-Lazare, donc je descends à Agnières. Il y avait un type qui me suivait depuis Saint-Lazare. Et miracle, il y a Jacques qui débouche de l'angle de la rue. Je me précipite vers lui. Il fait quelque chose, il y a quelqu'un qui me suit. Et ça a été le moyen de nous rencontrer.
Un sauveur, c'est ça, Jacqueline Tabarly. Alors oui. Donc, on imagine bien que vous étiez adolescent dans ce Paris de l'époque. Est-ce que vous aspiriez à fuir la ville ou c'était un temps où la conscience environnementale n'était pas encore aussi présente, où les besoins peut-être de verdure n'existaient pas autant ?
Je crois que ça nous manquait. Je pense que les bords de la Seine où on puisse se baigner, déjà à l'époque on pouvait pas se baigner, non, parce qu'elle était polluée, bien qu'il y ait eu les déclarations d'un président qui a dit dans quelques décennies, vous verrez, je traverserai Paris par la Seine, il l'a pas fait. Voilà. Et puis, il n'y avait pas beaucoup d'arbres, il y avait des espèces de kiosques où la nature était abandonnée. On regrettait, non pas d'une façon militante et politique, mais on regrettait de ne pas avoir un habitat qui soit plus confortable, qui soit plus joli.
En sachant que entre 7 et 10 ans, si je ne m'abuse, Jacques Perrin, vous avez été à l'internat, et donc vous disiez, on se construit en étant gosse, mais aussi dans les conditions qui sont celles
de l'évolution. Et dans la cour, c'était à Joinville, dans la cour, donc avec un univers clos, des hauts murs, il y avait au-dessus de la cour et dans le ciel, il y avait des martinets, on les entendait très loin. Et on levait la tête pour regarder. Il y avait les hirondelles qu'on entend moins. C'est fini, là, maintenant, je lève la tête, mais le ciel est vide. C'est un peu dommage.
Hein. Jacqueline Tavarly. Je suis
tout à fait d'accord avec toi, parce que moi, j'habite la Bretagne, tu sais bien. Mm-hmm. J'habite dans 4 hectares de silence. Et vraiment, ce silence est peuplé par les oiseaux, par les sangliers.
Oui, bien sûr, bien sûr. C'est une expression, bien sûr, tu as raison. Mais les martinets, tu ne les entends plus.
Non.
Hein, ceux-là, ils ont disparu. Ouais. Comme des tas d'autres espèces sont menacées sur le point de disparaître.
Jacqueline Tabarly, est-ce que l'évolution cinématographique de Jacques Perrin vous a étonné?
Honnêtement, nous nous sommes perdus pendant un certain nombre d'années, et puis nous nous sommes retrouvés, je ne sais plus par quel hasard, tu as connu d'ailleurs Eric, et nous nous sommes perdus de vue, mais j'ai suivi sa progression. Je me rappelle de lui quand il faisait du théâtre. Et puis je t'ai perdu de vue, mais je ne t'ai pas perdu de Louis. Donc je savais ce que tu faisais. Et puis tu montais, moi j'étais le ver luisant là en dessous. Et je ne sais plus par quel hasard nous nous sommes retrouvés. Et puis je crois qu'à partir de ce moment-là, on ne s'est plus jamais vraiment perdu.
Oui, je crois que j'ai su que tu étais marié à Eric de Tabarly. Vous aviez un nom, Tabarly, ça veut dire quelque chose, et Pendwick, et comme je préparais un film sur la mer, qui n'était pas très bon, qui s'appelait Les 40e Rugissant.
C'est ça, d'accord.
C'est Les 40e Rugissant.
Ouais. Oui, j'y suis.
Et donc, moi je suis, non pas à chercher des idées, parce qu'il suffit de rêver et de marcher, on les trouve, mais en quête d'argent, quoi. Hein, il faut du fric, et je pense qu'Eric cherchait du fric. Oui. Et à un moment, je me suis dit, je vais rencontrer Jacqueline, et puis je vais demander à son mari comment il fait pour trouver de l'argent. Et donc, je vais demander, et il m'a demandé, mais vous, comment faites-vous? Donc, on n'avait pas de renseignements l'un à l'autre.
C'est exactement ça.
Alors, sans plus attendre, je vous propose d'écouter la voix d'Éric Tabarly, extrait du film Tabarly de Pierre Marcel, dans lequel il parle justement du premier Pendwick acheté par son père.
Moi, je me souviens, on était allé le voir à côté de Nantes. C'était en 38, j'avais 7 ans. Le bateau était hiverné, là, au milieu des roseaux. Ça m'avait frappé, je vois encore cette image. Le bateau a dû plaire à mon père, puisqu'il l'a acheté. On faisait de la croisière côtière. On allait à Concarneau, à la Trinité, à Lisieux, à Belle-Île.
Jacqueline Tabarly, donc la voix d'Éric Tabarly, qui parle de ce Pendwick, le premier. Un homme des bateaux, plus qu'un homme de la mer d'ailleurs, et ces Pendwicks-là, vous faites en sorte aujourd'hui de les porter toujours. Ils sont une institution, on va aussi parler des héritiers, c'est-à-dire à la fois de vos enfants, et à l'un et à l'autre, mais un homme des bateaux avant tout.
Je lui ai demandé une fois, qu'est-ce que tu aimes dans ton métier, les bateaux ou la mer? Qu'est-ce qui est important, les bateaux ou la mer? Et j'ai continué en disant, si tu pouvais faire naviguer tes bateaux autrement que sur la mer, il m'a dit, tu as tout compris, c'est pas la mer qui m'intéresse, ce sont les bateaux.
Alors qu'on associe souvent le nom Tabarly à la mer, mais c'était d'abord cet incroyable inventeur, expérimentateur de ces bateaux, et puis après, bien évidemment, qui nous a fait rêver, qui nous a laissé des moments d'anthologie. Jacques Perrin, vous filmez d'ailleurs plus les animaux que les hommes, mais là, cet homme-là, c'est une magie en soi, c'est presque une bête.
Oui, c'est un horizon quand on se dépasse, quand on rejoint, et c'est bien, parce qu'on veut rejoindre un horizon, mais quand on s'avance et on s'en approche, plus l'horizon est toujours lointain. Et donc, je crois que Tabarly, Eric, c'était un peu ça. Il était jamais satisfait, je crois, Jacqueline, et que il trouvait quelque chose, mais c'était un tremplin pour inventer autre chose. Mais les ballasts, il a inventé les ballasts, c'est quand même considérable. On mettait des poids énormes de chaque côté d'un bateau, et puis de temps en temps, quand il y avait une gîte qui était trop importante, eh ben, le ballast pouvait nous apprendre. Et l'idée, on va mettre de l'eau. C'est simple. Ça aurait dû être inventé du temps des Phéniciens, quoi. Pas du tout. Il a fallu attendre Eric Tabarly pour qu'on trouve des applications qui sont toutes simples et géniales.
Est-ce que vos enfants, à l'un et à l'autre, prennent la relève? Vous avez le sentiment qu'il y a cette génération des héritiers pour s'engager aussi pour la planète, Jacqueline Tabarly?
J'ai deux filles, d'ailleurs. J'ai une aînée qui a maintenant 52 ans. Oui. Et puis Marie, qui est la fille d'Eric. Toutes les deux, d'ailleurs, s'engagent pour la planète, chacune de sa façon, à sa façon. Mais Marie, en tout cas, reprend le flambeau. Le bateau, elle connaît, on mettait son couffin sur le bateau avant qu'elle marche. Donc le bateau, c'est quelque chose de naturel pour elle. Mais elle veut simplement attirer l'attention des gens. Mais, d'ailleurs, elle t'en a parlé. Mettre le doigt là où ça fait mal, montrer aux gens ce qu'il faut ou ne faut pas faire. Plus que le bateau pour naviguer, le bateau est un outil pour aller vers les gens, pour leur dire « faites quelque chose, mais quelque chose de bien ».
Donc le Penduic 6, qui pourrait devenir un lieu de rencontre, de réflexion, de transmission en vue d'un mieux-être et d'une planète respectée et plus durable pour demain. Il faut préciser que Marie Tabarly donc, s'est lancée dans un tour du monde initiatique à vocation humaniste et environnementale sur le Penduic 6, un projet baptisé Élémentaire. Et donc, vous êtes au cœur de ce projet, Jacques Perrin?
Non, j'ai accompagné Marie, j'ai...
C'est un des parrains de Marie, quand même.
Non, j'ai pas suffisamment donné, mais c'est vrai que c'est un peu difficile, parce que, voilà, ce qu'elle fait, c'est vraiment très très bien. Et pour accompagner même un documentaire, ça demande un temps énorme. Moi, je suis en préparation de quelques sujets, que je ne vais pas évoquer, mais il y en a quelques-uns qui me demandent beaucoup de temps. Mais en tout cas, j'ai reçu avec Patricia Linière, avec Oli Barbet, qui sont mes collaborateurs, on l'a reçu, on a essayé de lui donner quelques conseils, quelques pistes. Mais ce qui est bien, c'est effectivement le bateau, qu'est-ce que c'est? C'est un moyen de transport, mais qui nous permet d'aller dans différents pays, des pays côtiers, et là, c'est bien de porter la bonne parole. Et la bonne parole, c'est ce qu'on peut faire avec un bateau, ce que l'on peut avoir comme échange avec les gens de l'outre-Atlantique, avec le Canada, avec les îles du Nord, et ça c'est bien. De ne pas rester, s'il y a un tant soit peu d'espérance, essayer de le faire contribuer avec nos plus lointains. Et qu'il n'y a pas que les gens qui nous sont proches qu'il faut approcher, il y a même les lointains.
Et vous-même, Jacqueline Tabarly, quel est votre engagement ou tout simplement votre regard sur aujourd'hui le monde, la planète, la nature, l'environnement?
Je pense que Jacques est plus optimiste que moi, ou peut-être que je suis aussi un peu inconsciente, mais vraiment, je regarde le monde et il me désole et je dois dire qu'on me proposerait de recommencer ma vie, je dirais non, parce que ce monde-là que vous faites ne m'intéresse pas. Je suis quelquefois vraiment désespérée de la bêtise humaine vis-à-vis de la nature, vis-à-vis du monde dans lequel nous vivons. Écoutez, j'étais à Saint-Barth au printemps, je n'ai pas pu me baigner dans la mer. Toutes les îles de la Caraïbe étaient cernées par des sargasses. D'où viennent-elles? D'Amérique du Sud, de tout ce qu'on met dans la terre et qui détruit tout.
Les fameuses algues des sargasses, oui. Qui posent effectivement de graves problèmes, non seulement environnementaux, oui, mais aussi de santé publique.
Absolument. Et ça, ça a été une désespérance.
Même s'il y a véritablement, on en a parlé avec Jacques Perrin, une prise de conscience en train d'émerger plus massivement, c'est peut-être le signe positif que vous attendez?
Oui, il y a quand même un homme qui me donne de l'espoir, c'est Rabhi.
Pierre Rabhi.
Pierre Rabhi. Vous voyez ce que j'ai là? C'est un colibri.
Donc autour du cou, ouais, accroché à votre chaîne, voilà, un petit colibri.
Et pour
colibri.
Moi, c'est une amie qui me l'a offert quand j'ai quitté les Antilles, mais pour moi, ça représente également Pierre Rabhi. Je pense que vous connaissez l'histoire, son histoire du colibri.
Qui la prend sa part, voilà, la petite chacun, goutte, voilà. Alors, pour éteindre l'incendie.
Oui, bien sûr. Prendre sa part. Oui.
Et donc ça veut dire, Jacqueline Tabarly, que vous êtes prête à prendre votre part?
Absolument.
Aussi?
Absolument. Bah oui, bien sûr. Je me désespère du monde dans lequel je vis, mais je ne lâcherai pas si je peux faire quelque chose pour lui.
Jacques Perrin, vous avez filmé donc les animaux, vous filmez les animaux à hauteur d'animaux. Si vous deviez filmer, non pas les défenseurs de la nature ou ces animaux, parce que je sais qu'il y a des films en préparation sur les défenseurs de la nature aussi, on ne va rien dire ici. Si vous deviez filmer, non pas les défenseurs de la nature, mais l'espèce la plus destructrice, l'homme dans toute son ampleur, de quelle façon est-ce que vous le feriez? Est-ce que vous l'avez imaginé d'ailleurs? Parce que ça pourrait peut-être aussi montrer à chacun notre empreinte, consciente ou inconsciente d'ailleurs.
Je ne sais pas si je suis suffisamment sensible, armé, pour pouvoir traiter. Je me souviens du réalisateur de Le Peuple Singe, Gérard Vienne. Il avait un film que je voulais faire avec lui, mais qui était vachement intéressant. C'était « Je vais faire un film sur l'homme, mais je vais le traiter comme un animal. Et donc, on va faire un film animalier sur l'homme. » Ça, je trouve ça formidable, parce que finalement, on réagit tous. Dans Le Peuple Singe, il y a les petits singes qui ont une tendresse avec, ou les parents avec, et c'est formidable, la tendresse des parents. Parce que d'un seul coup, on se rend compte, faut être intelligent pour avoir une extrême tendresse. Pas du tout. Les animaux l'ont, et en plus, les animaux se démerdent beaucoup plus vite que nous ne le faisons. Nous, il faut attendre 4 ans, 5 ans, et encore. Si on lâche dans la forêt, il est foutu, le petit gosse. Tandis que là, il a à peine un mois. Il se démerde. Et puis, il grandit. Donc, il y a les jeux, comme on a chez nous. Quand il est un peu plus vieux, il y a la prise du pouvoir, les bagarres. Donc, il y a un moment, il y en a un qui veut devenir leader, mais ça plaît pas à l'autre. Il y a tout ça. C'est une comédie humaine en regardant les animaux. Et puis, il y a le putsch, bien sûr, celui qui a pris le pouvoir. Et puis après, voilà, peut-être un peu plus dur que chez nous. Il y a les vieux, on va pas perdre notre temps avec les vieux, on les laisse de côté se reposer. Donc, il y a vrai, là aussi, il y a un enseignement, il y a une philosophie. Et donc, c'est dommage qu'on n'ait pas fait ce film sur l'homme. Parce que, voilà, non, c'est trop.
Je sais pas. Allez, c'est un projet pour demain, demander. Jacques Perrin. Vous ne pouvez pas vous arrêter là. Bon, on arrive au terme de cette émission, de ce moment partagé avec vous. Livrez-nous peut-être un message, votre message.
Mais je crois que, en reprenant ce que nous échangeions tout à l'heure, n'écoutons pas les. Écoutons pour savoir qu'il faut se méfier, qu'il faut s'armer, qu'il ne faut pas se laisser abattre. Mais toutes les pistes de ceux ou de celles, les quelques-uns qui nous font croire que faut les rejoindre. Faut les rejoindre et puis essayer d'innover. On est tous créateurs de quelque chose, chacun. Donc si on s'assemble, mais on peut faire un bâtiment. On peut faire, dans d'autres temps, on faisait une église, parce qu'il y avait des tas de corps de métier. Donc aujourd'hui, sans que ce soit une directive, sans que ce soit le pouvoir politique qui indique comment faites-vous, vous n'êtes pas des citoyens, vous êtes des machines à faire. Donc non, c'est pas vrai. Nous sommes citoyens. Et donc, allez, cette encore belle planète, il faut l'aider à pas survivre, à retrouver son équilibre.
Parce qu'il y va aussi de la survie de l'homme. Jacqueline Tabarly.
Je dirais, vis et aime. Aime surtout. Si tu aimes, tu ne peux pas détruire ce que tu aimes. Aime les autres. Aime la vie. Aime la nature. Regarde-la. Aime-la. Et tu vivras. Et ça continuera. Mais je suis, par rapport à Jacques, je suis très, très basique. Mais mon maître mot, c'est aime.
Très bien. On va faire en sorte.
On va faire en sorte, et notamment avec vos films, Jacques Perrin, La planète est à l'agonie, réveillons-nous. C'est le message aussi qui est donné dans ce film Mia et le lion blanc, film de Gilles Demestre qui sort au cinéma. Dernier extrait.
Bonjour madame. Votre lion est arrivé.
Fantastique.
Bonne chance.
Yeah,
je vous en prie. John, tu viens enfin voir de l'action ?
J'en ai rien à foutre de tes conneries. Je fais ça pour aider Tunes.
Ouais, mais... N'empêche que t'es là. Ton lion blanc, il va nous rapporter un max de blé.
C'est pas à toi que je livre. Je donnerai le lion à la ferme et ça s'arrête là.
Raconte-toi ce que tu veux dans ta tête. Si y a que ça pour t'aider à mieux dormir, vas-y, te gêne pas. Raconte-toi ce que tu veux. Je te demande juste d'être lucide, juste d'être réaliste. Grâce à qui tu crois que t'as eu ton prêt, hein? Ma gueule. Fais ce qu'on a dit, ou tu vas perdre tout ce que t'as.
Je l'ai touché! Elle bouge encore. Pas dans la tête, idiot, vous allez abîmer mon trophée.
Bravo, Pocky!
Oh. Extrait du film Mia et le lion blanc de Gilles de Maistre, un conte familial qui sensibilise à la préservation des animaux sauvages. Et nous nous quittons sur la musique du film que nous devons à Armand Amar. Merci à tous les deux. Merci Jacqueline Tabarly. Merci Jacques Perrin. Toutes les références vous concernant, vos films, vos livres sont à disposition sur le site de l'émission franceculture.fr à la page de Cause à effet. Réécoute et téléchargement, bien sûr. Samedi prochain, c'est Caroline Audibert, surnommée la princesse du Mercantour, qui nous parlera de son rapport au loup. Et elle sera rejointe en seconde partie d'émission par un autre amoureux du monde sauvage, le biologiste et documentariste Stéphane Durand. Belle matinée à tous, bon réveil si vous nous rejoignez, et tout de suite, je vous laisse en compagnie de l'équipe de la rédaction de France Culture pour le journal.